Cette semaine, j'ai rencontré deux dames que je vois assez souvent. Et je leur ai dit, vous devriez venir à Villefranche dimanche, là. Je vais prêcher sur la fin du monde. La fin du monde. Moi, j'y crois pas, à la fin du monde. Ah oui, vous avez tort. Et bon, ben, elles sont pas là. Donc, il faut croire qu'elles y croient vraiment pas. Lors du baptême de Yann, il y a une semaine, j'ai cité ce merveilleux verset de Matthieu 28, versets 18 à 20. Alors Jésus s'approcha de ses disciples et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et c'est ces trois mots-là, jusqu'à la fin du monde, qui a attiré mon esprit cette semaine en vue de ce message. J'espère que c'est avec le Saint-Esprit pour la prédication d'aujourd'hui. Cette merveilleuse promesse du Seigneur Jésus, je suis avec vous tous les jours, ça a été rappelé dans une prière ce matin. Je suis avec vous tous les jours. Et pas uniquement quand on est en bonne forme spirituelle, hein, même quand ça va pas. Il est là tous les jours. Et ce, jusqu'à la fin du monde. On peut mettre la première diapo. Ah ben, voilà. Et simplement, avant de venir à 2 Pierre 3, oui, voilà, c'est la deuxième. Voilà la fin du monde selon Hergé. Alors, je suis désolé, elle est en anglais. Je n'ai pas retrouvé mon tata en français.
Et il prévient les gens dans la rue, le jugement est sur nous, repentez-vous, la fin du monde est proche. Oui, il a raison. Hein. Pourquoi Hergé avait des notions hein.
On va lire un texte qui en parle, la deuxième épître de Pierre, chapitre 3. On va lire tout ce chapitre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les saints prophètes ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront. Des moqueurs, pour la fin du monde, ça n'existe pas. Des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant, « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand ? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ses sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. Là, par exemple, notre frère Pascal nous a lu un passage de Paul concernant l'enlèvement des croyants. Voilà. Verset 17. « Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. » Donc, dans Matthieu 28, il y avait cette promesse de Jésus, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le texte original n'emploie pas le mot « cosmos », qui est traduit par « monde » en général, mais le mot « aïon », qui signifie le siècle, l'époque, le temps, l'ère. Jésus parle donc là de l'achèvement d'une ère, une période si vous voulez. Une ère qui, selon les scientifiques, dure depuis environ 14 milliards d'années, mais qui aura une fin, un achèvement. C'est ce que dit le Saint-Esprit par la plume de Matthieu que nous venons de lire. Et les scientifiques sont actuellement d'accord là-dessus, qu'il y aura bien une fin du monde que nous connaissons. Contrairement d'ailleurs à ce que pensaient les croyants de l'Antiquité, ces derniers pensaient que le monde était un perpétuel renouvellement, qu'il n'y aurait jamais de fin. Et beaucoup de gens croient ça encore de nos jours. Et c'est pour ça d'ailleurs que les moqueurs dont Pierre parle dans sa troisième épître, c'était certainement des gens qui étaient influencés par la pensée grecque de l'époque, notamment que le monde était un perpétuel renouvellement. Alors, dans ce que nous avons lu, au verset 4, la parole de ces moqueurs, « Alors, qu'en est-il de la promesse de sa venue? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » On voit que malheureusement, au sein même du peuple de Dieu de l'époque, certains avaient totalement renié les enseignements du Seigneur Jésus concernant son retour. Et ils se moquaient de leurs frères qui, eux, y croyaient encore. On voit qu'il y avait, dès cette époque, de faux chrétiens qui, cependant, prétendaient l'être ou en tout cas fréquentaient les réunions chrétiennes. Et c'est l'occasion pour l'apôtre Pierre de démontrer la fausseté de ses raisonnements au moyen des données de l'Ancien Testament et des révélations dont il a bénéficié, soit directement par le Saint-Esprit, soit plus probablement par les enseignements qu'il a reçus directement de Jésus, qu'il a côtoyé pendant 3 ans. Alors Pierre commence par mettre le doigt sur leur incrédulité vis-à-vis des textes bibliques, et notamment des textes de l'Ancien Testament comme la Genèse. Verset 5. Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément. Dans l'original, c'est plus qu'un oubli. C'est une volonté délibérée d'ignorer. Les moqueurs de l'époque de Pierre ignoraient volontairement l'enseignement biblique. Il en est exactement de même aujourd'hui, pour la plupart de nos scientifiques et de nos philosophes, et malheureusement même parmi certains qui se disent chrétiens. Alors qu'est-ce qu'ils ignorent ainsi volontairement? C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre, c'est-à-dire l'univers que nous connaissons. Connaissance très partielle malgré toute notre science dont nous sommes si fiers. Cette notion que le monde dans lequel nous vivons a été créé par Dieu a été parfaitement admise par de très grands scientifiques, comme par exemple Isaac Newton, qui a jeté les bases de la physique dite newtonienne, encore utilisée de nos jours, même si elle a été complétée par des apports plus récents comme la physique quantique ou la théorie de la relativité, toutes ces choses-là. Certains physiciens contemporains, probablement plus honnêtes que les autres, reconnaissent que la précision inouïe du fonctionnement de l'univers ne peut être que l'œuvre d'un esprit infiniment supérieur à tout ce que le cerveau humain peut concevoir. Mais la plupart refusent volontairement, comme le dit l'apôtre Pierre, de voir la main de Dieu dans la création, prétextant que cette notion ne relève pas du champ de la science. Alors Pierre continue son raisonnement. Il rappelle que le Dieu créateur, qui a intimé à la masse liquide qui recouvrait la terre primordiale de se retirer et de laisser apparaître la terre ferme, a aussi commandé à ces mêmes eaux de détruire toute vie terrestre par le déluge. C'est ainsi que Dieu a jugé la génération humaine de l'époque et l'a entièrement fait périr, à l'exception de 8 personnes, donc Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. En Genèse 6, versets 11 et 12, nous lisons en effet « Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. » Sur ce point, on pourrait donner raison aux moqueurs. Depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Dieu observait ce qui se passait sur la terre, il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Au verset 7, Pierre nous dit « Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. En ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Selon cette révélation de Pierre, tout comme Dieu a autrefois jugé l'humanité pécheresse en la détruisant par l'eau, à l'exception de 8 personnes, il la jugera définitivement dans l'avenir par le feu. Les mots employés par Pierre évoquent une sorte de désintégration de l'univers actuel. Le feu, dans la Bible, est utilisé comme image de la purification totale. D'ailleurs, le mot « purification » lui-même comporte la racine « feu ». Vous savez que le feu, en grec, ça se dit « pur ». « Tau pur », c'est le feu. C'est bien d'un jugement purificateur du monde actuel que Pierre parle. Lorsque sera arrivé le jour du Seigneur, expression qui désigne toujours le dernier jour, la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. Tout ça est effrayant, hein? Mais il y a ce verset 13. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Vous imaginez? Où la justice habitera. Il y aura probablement, je pense, des similitudes et des différences entre l'ancienne et la nouvelle création à venir. Mais une différence fondamentale sera celle que Pierre souligne. Un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. La justice a habité sur cette terre, dans le jardin d'Éden, où Dieu se plaisait à rencontrer l'homme, le chef-d'œuvre de sa création, car créé à son image. Mais comme la Bible nous le révèle, l'injustice a fait irruption, tant dans le ciel, siège des autorités de méchanceté, que sur la terre, où le diable a réussi à séduire et corrompre nos premiers parents. Nous pouvons être certains qu'un jour, la justice habitera sur une terre renouvelée et dans des cieux purifiés du mal. Pierre cite là une parole du prophète Ésaïe, en Ésaïe 65, ce sont les versets 16 et 17, c'est le Seigneur qui parle. « En effet, les maux du passé seront tous oubliés, ils disparaîtront de ma vue. Je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se rappellera plus les choses d'autrefois, on n'y pensera plus. » Verset 10 de notre texte de Pierre. « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Alors dans la langue originale que Pierre a utilisée pour la rédaction de sa lettre, le verbe « viendra » est en tête de phrase, ce qu'on ne ferait pas en français, hein. On pourrait traduire, pour rendre en français cette construction, « Il viendra le jour du Seigneur. » Pourquoi il l'a mis en tête de phrase? C'est pour dire que c'est sûr, hein. Il viendra, mais comme un voleur. Donc Pierre a construit sa phrase dans un but emphatique, afin de souligner l'entière certitude de l'arrivée de ce jour. ce que mettaient en doute les moqueurs. Mais il viendra comme un voleur, c'est-à-dire que personne ne peut prédire quand. Les moqueurs que Pierre fustige ne croyaient pas en réalité au fait que le Seigneur Jésus allait revenir. Et comme ce retour semblait tarder, cela alimentait leur moquerie à l'égard de ceux qui avaient gardé la foi dans cette promesse de leur Seigneur. Alors Pierre donne à ceux qui ont gardé la foi la raison de ce retard apparent au verset 9. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. La Bible du semeur a traduit le verbe grec « koreo » par « parvienne » à se convertir. Ce verbe a pour premier sens de « s'ouvrir à quelque chose ». Cela fait penser à ce beau verset d'Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. J'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Ce sursis dans l'application du jugement de ce monde a donc pour seule raison de donner du temps aux pécheurs pour se repentir et ouvrir la porte de leur cœur. Car le Seigneur ne veut pas qu'aucun périsse. Paul, en 1 Timothée 2, verset 4, a écrit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » On revient à notre texte, au verset 11. « Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété, en attendant que vienne le jour du Seigneur et en hâtant sa venue. » Alors mener une vie sainte, c'est se garder du mal. Pratiquer la piété, c'est avoir pour objectif l'obéissance en toutes circonstances au Seigneur. On a ici en quelque sorte la feuille de route du disciple de Christ dans l'attente de son retour, la sanctification et l'obéissance au Maître. En attendant le jour du Seigneur et en hâtant sa venue. Là aussi, encore un verbe grec, c'est le verbe spedo, traduit dans pas mal de Bibles par hâter, hein, hâter la venue du Seigneur. Mais il peut signifier aussi ce verbe avoir du zèle pour quelque chose, prendre au sérieux. Honnêtement, je ne suis pas certain que notre sanctification et notre obéissance hâtent chronologiquement le retour de notre Seigneur, car cela me semble peu compatible avec sa souveraineté. Mais quelle que soit la façon dont on traduit ce verbe, on voit qu'il s'agit d'une attente active, marquée par la sainteté et la piété, ce que confirme le verset 14. Verset 14 donc, c'est pourquoi mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts, il y a des efforts à faire, hein, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Faites tous vos efforts, ce n'est pas se laisser aller à la paresse. Pour que Dieu vous trouve pur, c'est ça notre chemin actif et persévérant de sanctification. Et irréprochable. Ça, c'est l'obéissance à ses commandements. Faire fructifier les talents ou les mines que le Seigneur nous a confiés durant le temps de son absence. Et dans la paix qu'il donne. La vie chrétienne à laquelle le Seigneur nous appelle est faite d'efforts et d'épreuves. Mais le Seigneur nous garantit sa paix par qu'il se plaît à la donner à ses enfants. Il s'agit ici de la paix du cœur, au travers des efforts et des épreuves. Verset 15. Comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre salut. On a vu que le Seigneur patiente parce qu'il ne veut pas, parce qu'il veut que d'autres pécheurs soient encore sauvés. Mais là, je pense qu'il s'agit de la mise en œuvre du salut de ceux qui sont déjà sauvés parce qu'ils ont mis leur confiance en Jésus-Christ. C'est durant ce temps de sa patience que nous pouvons mettre en œuvre notre salut, c'est-à-dire persévérer jusqu'au bout dans la foi et servir le Seigneur de tout notre cœur. Verset 15, deuxième partie, le verset 16, Pierre encourage ses lecteurs à approfondir les enseignements de l'apôtre Paul, qui traite des mêmes sujets, mais selon la sagesse que Dieu lui a donnée. Et remarquez que Pierre, je ne sais pas si vous avez remarqué au passage, mais les écrits de Paul au rang des autres textes de l'Écriture, c'est-à-dire comme étant parole de Dieu. La parole apostolique est parole de Dieu. Ce qui fait qu'on a tout intérêt à bien l'étudier et surtout à y obéir. Il reconnaît au passage que certains textes de Paul sont difficiles et que les chrétiens mal affermis peuvent entendre le sens. C'est vrai. Mais si nous ne comprenons pas toujours bien ou si certains textes nous rebutent, il convient plutôt de chercher honnêtement pourquoi il en est ainsi. Le problème ne vient certainement pas du côté de la parole de Dieu, mais plutôt de notre difficulté à comprendre peut-être, mais aussi à nous soumettre à cette parole. Verset 17, « Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus, dit Pierre. » Cela rappelle les paroles d'adieu de l'apôtre Paul aux anciens de l'église d'Éphèse qu'on trouve en acte 20. En acte 20, verset 20, il dit à ses anciens d'Éphèse, « Vous savez que sans rien vous cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui pouvait vous être utile, soit publiquement, soit dans vos maisons. C'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui, je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. » Encore une fois, la vérité totale de la parole apostolique. Verset 17, la suite de ce verset. « Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. » Par exemple, Paul a écrit à Timothée, dans la première épître, chapitre 1, verset 19, « Certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. » C'est malheureusement des choses qui peuvent exister. Par exemple, la littérature chrétienne n'a jamais été aussi abondante que de nos jours, mais malheureusement, à côté de très bons livres, on trouve aussi des enseignements tout humains, voire même parfois diaboliques, comme le dit Pierre, de gens qui tordent le sens des Écritures. Verset 18. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ces progrès demandent des efforts. Par exemple, l'effort de participer le plus possible aux réunions de l'Église dans laquelle le Seigneur nous a placés. C'est une joie, mais ça demande quand même des efforts. Ressortir alors qu'on n'a pas forcément envie, renoncer à un match particulièrement excitant ou à un programme de télé alléchant. Effort d'évangéliser, malgré l'indifférence générale de nos contemporains, quand ce n'est pas même leur hostilité. Effort de vaincre notre timidité et afficher notre foi. Notre timidité a affiché notre foi, pardon. Par exemple, pour participer à un culte hors les murs de notre église, qui est prévu dans peu de temps. Alors, bravant l'intimidation des moqueurs, nous pourrons dire comme Pierre, « À lui soit la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. » Amen.